télescope Rattan 600 en Russie, situé dans le Caucase, a capté un signal au mois de mai 2015, signal étrange dont on vient d'identifier l'origine. Il s'agit d'un signal d'origine extraterrestre. C'est donc prouvé, il existe quelque part à 95 années-lumière de nous une autre civilisation qui cherche à communiquer. C'est une révolution dans l'histoire des sciences et c'est une révolution dans l'histoire des hommes. Extraterrestre, premier contact, c'est le scénario de science-fiction que nous allons dérouler avec nos invités dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et un vendredi par mois, nous allons donc jouer à nous projeter dans un scénario de science-fiction, interroger les rapports entre les connaissances scientifiques actuelles avec les projections qu'en font des auteurs de fiction ou des artistes. Et pour ce premier scénario à la Orson Welles, en cette année qui est par ailleurs le 150e anniversaire de la naissance d'H.G. Wells, l'auteur de La Guerre des Mondes, dont Orson Welles avait produit une célèbre adaptation radiophonique qui fit paniquer l'Amérique, eh bien nous allons donc interroger ce que seraient les implications d'un contact avec une intelligence extraterrestre et quelles en seraient les conséquences. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table François Forget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Nous sommes également avec Laurent Genefort. Bonjour.
Bonjour.
Auteur de science-fiction de l'indispensable cycle de Mal, mais aussi de Alien, mode d'emploi et de Point chaud aux éditions du Bélial. Et Roman Ikonikov. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste chez notre partenaire chéri, le magazine Science et Vie. On va vous retrouver dans une petite dizaine de minutes, puisqu'avant d'effectuer ce que Laurent Genefort et les auteurs de science-fiction appellent une suspension volontaire d'incrédulité, eh bien nous allons plonger dans la science tout court avec le journal des sciences de Xavier Martinet. Bonjour, bonjour Xavier.
Bonjour Nicolas.
Le journal des sciences.
Et pour commencer ce journal des sciences, l'accord de Paris sur le climat cette semaine à l'ONU va être bientôt validé, Xavier.
En effet, ce sont 31 pays qui viennent de s'ajouter mercredi dernier à ceux qu'il avait déjà ratifiés. Ils sont donc 60 en tout, 5 de plus que les 55 nécessaires, et tous les continents sont représentés. Outre la Chine et les États-Unis la semaine dernière, il y a certains pays importants, des pays émergents comme le Brésil, le Mexique, Singapour ou les Émirats Arabes Unis, ce qui fait qu'une partie de la presse et certains dirigeants s'enthousiasment et voient déjà une conclusion du processus avant la COP22 de novembre au Maroc. Cependant, sur le plan diplomatique d'abord, ce n'est pas joué, manque l'Europe notamment, et outre ces 55 pays, il faut aussi qu'ils représentent 55% des émissions de gaz à effet de serre. Là, avec à peine 48%, ce n'est pas encore le cas. Donc toute l'efficacité climatique de l'accord dépendra ensuite des contributions des États pour atteindre l'objectif de 2 degrés maximum de hausse des températures par rapport à l'ère pré-industrielle. Bref, ces ratifications sont une bonne nouvelle, mais l'accord est encore lacunaire. C'est ce qu'explique l'auteur de « Gouverner le climat » auprès de Sciences Po, le politiste Stéphane Écoute.
Si on les additionne toutes, on parle de 15 à 17 gigatonnes. C'est à peu près un tiers des émissions d'aujourd'hui qui sont de trop. Ça veut dire qu'il faut trouver des réductions supplémentaires à ce qu'ont annoncé les États jusqu'ici. Et donc, après l'entrée en vigueur du traité, ça sera ça, le débat qui sera vraiment le débat crucial pour le succès environnemental de cet accord. Et donc, c'est très important que des pays comme le Brésil, comme le Mexique, comme aussi la Chine, bien évidemment, comme l'Inde, qu'on attend encore, fassent des efforts et soient prêts à montrer le chemin. Après, bien évidemment, ce qu'attendent ces pays, et notamment pour l'Inde, ça sera un point très important, c'est que les pays développés, finalement, les aident financièrement pour développer des énergies propres, des énergies renouvelables, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'accord de Paris prévoit, mais où il donne très peu de détails.
Et ceci, Xavier, alors que la planète vit l'année la plus chaude enregistrée depuis 137 ans.
Et oui, 14,1 degrés de température moyenne pour les terres et les océans. C'est un record de chaleur aussi pour le 16e mois consécutif. En Asie et en Afrique, jamais les températures n'avaient été aussi élevées depuis plus d'un siècle qu'on les note. Il y a donc toujours la même inquiétude pour les conséquences du réchauffement sur Terre ou sur les mers. Deux études encore cette semaine sur les banquises et les calottes glaciaires. Du coup, une partie des chercheurs du GIEC, le groupe de scientifiques qui conseille l'ONU, était cette semaine à Oxford à l'initiative de certains pays. Il prépare d'abord un rapport pour 2018. Écoutez la climatologue Valérie Masson-Delmotte, c'est la coprésidente du premier groupe de travail du GIEC.
On travaille pour affiner quelles peuvent être ses conséquences, à la fois en fonction de l'amplitude de réchauffement. Donc aujourd'hui, on est autour de 1 degré de réchauffement depuis 1900, pour 1,5 degré, pour 2 degrés, mais aussi en fonction de la vitesse du changement. Et donc, on voit émerger un certain nombre de travaux sur ces aspects-là. Par exemple, le risque de sécheresse autour de la Méditerranée pourrait doubler entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement. On a par exemple une étude d'ensemble conduite par un collègue français, Jean-Pierre Gattuso, qui a montré des risques importants pour un certain nombre d'écosystèmes marins, largement en dessous de 2 degrés de réchauffement. Par exemple pour les récifs de coraux d'eau chaude, pour les bivalves, pour un certain nombre d'espèces de poissons qui font l'objet de l'aquaculture. Donc on voit émerger des connaissances de plus en plus fines, plus abouties, que ce qui n'était disponible simplement il y a 4 ou 5 ans.
Voilà, donc premier rapport préliminaire sur le climat en 2018, deuxième en 2023. Entre-temps, d'ici 2020, on devrait avoir vu les premières contributions financières.
Par ailleurs, Xavier, des scientifiques américains critiquent les positions de Donald Trump sur le climat.
Oui, 375 savants, directeurs d'instituts ou chercheurs, dont 30 prix Nobel quand même, auxquels s'ajoutent d'autres figures, comme l'astrophysicien britannique Stephen Hawking. Il reproche donc à Donald Trump ses prises de position sur l'accord de Paris cette année en mai, lui qui a menacé, s'il était élu, de l'annuler au titre qu'il allait tuer l'emploi américain. Les scientifiques eux, affirment que les États-Unis ont un rôle moteur à jouer et à défaut d'être entendus, les chercheurs inventent et mettent en garde contre un futur Brexit.
En bref maintenant Xavier, la médaille d'or du CNRS remise hier à une femme.
Oui, c'est une femme, la mathématicienne Claire Voisin, 54 ans, et c'est une récompense pour elle qui vient s'ajouter à pas moins de 8 prix depuis 1988, presque un couronnement, donc l'année où elle est la première mathématicienne à occuper aussi la chaire de géométrie algébrique du Collège de France. C'est donc aussi un témoignage de l'intérêt porté à ses travaux qui portent sur certains des problèmes majeurs des mathématiques contemporaines, ce qu'on appelle parmi les 7 problèmes du millénaire, qui sont liés à l'émergence d'une géométrie de plus en plus complexe et à son exploration. C'est ce qu'on appelle notamment la topologie en mathématiques. Et je laisse parler Claire Voisin. Topologiquement parlant, une sphère et la surface d'une pyramide sont identiques, même si dire de pareilles choses est une aberration du point de vue de la géométrie algébrique.
Vous avez 3 heures, prenez vos copies, on vous interroge à la fin du Journal des Sciences. En bref, également, autre remise des prix. En attendant, les Nobels sont décernés chaque année, Xavier, les Ig Nobels de palmarès.
Les Ig Nobels, la 26e édition pour ce prix remis à Harvard. Un préfixe en IG qui renvoie non pas à des travaux scientifiques ignobles, mais des travaux scientifiques réels et officiels, mais ignorés et qui auraient pu mériter une sorte de prix Nobel, 10 prix en fait pour des disciplines qui vont de la reproduction sexuelle à la paix en passant par la chimie ou la perception. Par exemple, parmi les vainqueurs de cette année, on relève un Égyptien qui étudie l'effet des différents vêtements en textile sur l'activité sexuelle des rats ou des humains, ou encore un IG Nobel de la paix pour un travail, je cite, sur la réception et la détection des bêtises pseudo-profondes.
On reprend un peu de sérieux. Deuxième sujet du jour, Xavier, c'est ce livre blanc pour les sciences du vivant au XXIe siècle qui a été présenté hier aux députés à l'Assemblée nationale.
Oui, présenté par le CNRS, mais aussi le CEA et puis l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Un livre blanc qui se veut d'abord un recensement de travaux de chercheurs et une mise à jour des connaissances que la biologie peut présenter au public. Et ceci après des années d'importantes découvertes qui viennent à la fois augmenter et troubler la compréhension de la vie. Une des plus connues et des plus anciennes dans ce domaine, on pourrait dire, est la molécule d'ARN qui sert à la fois dans les interactions du cerveau mais dans d'autres réactions organiques. Écoutez, Catherine Jessus est la directrice de l'Institut des sciences biologiques du CNRS et elle est à l'initiative de ce livre blanc.
Il y a notamment celui de l'immensité de la biodiversité qu'on n'avait pas soupçonné et de la manière dont la vie a colonisé des milieux extrêmes dont on ne pouvait pas imaginer qu'ils étaient habités. Et ça, ça renvoie à des vieilles questions hein, sur les origines de la vie sur Terre. Et ça nous donne aussi un fil pour la quête de la vie sur d'autres planètes. Il y a l'hérédité. Par derrière, il y a l'épigénétique, bien sûr, qui est un champ déjà bien amorcé depuis une vingtaine d'années, mais qui n'en est, je pense, qu'à ses prémices. Il y a un champ vraiment important qui est le cerveau humain, qui est sûrement l'organe le plus fascinant d'un point de vue de la cognition, où on pénètre à cause d'avancées technologiques comme l'imagerie notamment et l'imagerie non invasive, toute la biologie qui sous-tend les opérations mentales de l'être humain, c'est un champ qui est en révolution.
Voilà, en révolution, et pourtant, Xavier, depuis le début des années 2000, la France a perdu des places dans la recherche internationale.
C'est ce que montrait là un précédent rapport du CNRS sur le financement de la recherche et de l'emploi scientifique en 2014. En effet, entre 2002 et 2012, la France était déclassée à la 20e position en ce qui concernait la recherche fondamentale. Alors cette année, après un début de mobilisation des chercheurs au printemps, le gouvernement a bien sanctuarisé les budgets scientifiques. Il a sanctuarisé encore, mais un budget maintenu, c'est un budget contraint, c'est ce que déplore le président du CNRS, Alain Fuchs, en période préélectorale. En effet, ce livre blanc est aussi un appel au monde politique.
On ne pourra pas continuer comme cela pendant très longtemps, sans risque de décrochage de la science française en général, vis-à-vis de ce très grand mouvement international, mondial, de la science, où on a vu ces dernières décennies émerger de nouveaux joueurs. Ça, c'est la grande nouveauté. La science, pendant très longtemps, la science moderne, ça a été l'Europe, qui est le berceau de la science moderne, et puis les États-Unis, le Japon, la Russie. Voilà. Et aujourd'hui, on a ces nouveaux joueurs, très actifs, très compétitifs, la Chine bien sûr, mais aussi Singapour, bon, beaucoup de pays d'Asie, Taïwan, la Corée du Sud, etc. Voilà, donc dans cette grande circulation des cerveaux et des idées à laquelle nous participons aujourd'hui, dans une compétition acharnée qui n'est pas toujours facile, je plaide simplement pour que la science française ne se transforme pas progressivement en spectateur de la science mondiale, mais reste un acteur.
Le président du CNRS, Alain Fuchs. Pour conclure, Xavier, les chercheurs vont peut-être résoudre un des plus importants problèmes de comptoir, c'est notre brève d'improbabilologie, c'est toujours difficile à dire.
Oui, là, c'est une étude assez improbable publiée par deux chercheurs de Stanford dans la Physics Review Fluids. En fait, ils s'occupent de dynamique des fluides et dont le titre laisse songeur, en effet, arrêter l'instabilité de Marangoni. En fait, c'est une étude qui montre pour la première fois la maîtrise d'un effet, donc l'effet de Marangoni, qui est souvent observé dans la formation de mousse à la surface d'un liquide, par exemple des bulles de savon à la surface de l'eau, mais jusqu'ici, il n'était pas reproductible. En fait, tout vient des tensions différentes qui sont générées dans le même liquide. L'effet Marangoni lui exprime cette instabilité. Il repousse les molécules des zones de haute tension vers celles de plus basse tension et permet ainsi à une enveloppe de résister à une rupture mécanique. Il produit par exemple aussi les larmes du vin. Alors dans l'industrie, on utilise déjà cette propriété des liquides dans l'industrie électronique, dans la pétrochimie, le médicament, certains travaux de soudage. Mais cette fois, les chercheurs ont réussi à contrer l'instabilité d'origine en provoquant un deuxième effet Marangoni qui stabilise le fluide, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'au septième. Ainsi, le résultat, filmé à la surface de l'eau, est une sorte de vitrail kaléidoscopique très régulier. C'est donc un pas vers sa maîtrise complète et on pourrait donc à terme stabiliser complètement la mousse à la surface d'un demi de bière.
Voilà, grâce à la méthode scientifique Xavier Martinet, vous pouvez avoir l'air intelligent à l'heure de l'apéro le vendredi soir et ça n'est pas rien. Un tout dernier mot, Xavier, il faut suivre une information qui devrait être dévoilée par la NASA lundi.
Oui, à 20h heure de Paris, elle devrait annoncer une découverte qualifiée d'activité surprenante observée par le télescope Hubble sur Europe, qui est un des satellites de la planète Jupiter. Alors on savait déjà qu'il y avait une sorte d'océan sous sa surface, et bien la suite c'est lundi.
Peut-être, qui sait, de la vie dans notre système solaire. Et vous l'avez entendu, l'information principale du jour, je vous la donnais dans les titres, elle n'était pas dans le journal des sciences. C'est ce premier contact avec un message d'origine extraterrestre. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait du journal de 8h d'Amélie Perrier ce matin sur France Culture.
Et pour commencer cette information, je vous le disais en titre, les extraterrestres existent. C'est désormais certain, le message capté par le radiotélescope russe Rattan 600 au mois de mai 2015 est bel et bien un message d'une autre civilisation. Ce message provient d'une étoile similaire à notre Soleil, étoile située dans la constellation d'Hercule, à 95 années-lumière de la Terre. Il a pu être décrypté par une équipe de scientifiques internationaux. Alors que dit-il? Que sait-on aujourd'hui de cette autre civilisation si loin de nous et désormais si proche? C'est un reportage de Céline Lozen.
Oui, c'est Madame Piotela.
Bonjour.
Voilà, bonjour.
Donc voilà la présentation qui était envoyée et qui, je pense, va être discutée.
Envoyée par la communication du Rattan.
Voilà, par les scientifiques. Donc, il commence par expliquer un petit peu combien il peut y avoir de civilisations dans la galaxie, etc. Voilà, donc
on voit beaucoup de formules. Hein,
voilà, beaucoup de formules.
Là, on voit le spectre du signal.
Voilà, qui a été reçu le 15 mai 2015 à 18h sur la longueur d'onde de 2,7 cm. Et donc, ils montrent ce qu'ils ont capté et ce qu'on pourrait attendre d'un signal extraterrestre. Et l'idée, c'est vraiment de présenter ça à leurs collègues scientifiques et pour dire, ben voilà ce qu'on a reçu, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est un signal extraterrestre, ça a dû être émis avec une puissance assez importante, ce qui fait que ben, c'est une civilisation très avancée qu'aurait envoyé ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un signal, en fait, c'est un signal candidat tant qu'il n'a pas été vérifié. C'est-à-dire, c'est vraiment se dire, ben, peut-être que là, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir, mais ça ne suffit pas pour dire c'est un signal extraterrestre. Et il y a un grand scientifique, Carl Sagan, qui disait « postulat extraordinaire, preuve extraordinaire ». C'est-à-dire, plus on veut montrer quelque chose de fort, plus il faut vraiment que la preuve soit très, 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 très solide. Là, on était vraiment dans un signal. Il y a quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Ça a été reçu il y a un an, donc c'est aussi ce qui va lui mettre une mauvaise note à ce signal, parce que l'idée, c'est de se dire, normalement, ce que les Russes auraient dû faire, c'est de dire tout de suite, dire, on vient de recevoir quelque chose ici, vérifiez tout de suite. Parce que si une civilisation extraterrestre envoie un message, elle ne va pas l'envoyer forcément en permanence.
Et pourquoi, à votre avis, les Russes ont gardé cette donnée-là, ne l'ont pas publiée en tout cas pendant presque un an?
Alors moi, ce que j'ai pu lire, c'est qu'ils savaient pas, qu'ils connaissaient pas les protocoles au niveau international. Voilà, mais ça reste un petit peu un mystère. Alors est-ce qu'ils voulaient le vérifier aussi de leur côté avant d'alerter d'autres personnes? Donc voilà, sachant que c'est pas non plus un signal extraordinaire. Eric Koperla, qui est un scientifique sur SETI Atome, disait « mais des signaux comme ça, on en a plein dans notre base de données ».
Et aujourd'hui, on en sait plus sur l'origine de ce signal?
Donc il y a eu deux communiqués qui ont été faits par la responsable du radiotélescope de Rattan, qui a dit « c'est un satellite russe ». Et donc l'agence TASS aussi a fait un communiqué qui allait à peu près dans ce sens-là. Donc pour l'instant, on en est là-dessus. L'annonce officielle, c'est que c'est un satellite russe.
Et vous l'aurez compris, hein, on n'a pas vraiment trouvé de message d'origine extraterrestre. Gardez votre sang-froid, puisque je vous le rappelle, aujourd'hui, comme une fois par mois dans la méthode scientifique, hein, on examine un scénario de science-fiction, mais on cherche surtout à comprendre ce que seraient les conséquences d'un tel contact. On va examiner le réel, ce que l'on sait, ce que l'on cherche, ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous avez donc rencontré l'une des membres du SETI en France.
Oui, exactement. En fait, je rappelle que le SETI, c'est l'organisation qui s'appelle Search for Extraterrestrial Intelligence.
Vous le dites parfaitement.
Oui. Une organisation internationale qui réunit en fait les astronomes spécialisés dans la recherche de vie extraterrestre. Et j'ai rencontré Elisabeth Piotela, que vous avez entendue. Elle est ingénieure et représentante de l'organisation SETI en France. Je l'ai retrouvée au siège de l'Académie internationale d'astronautique dans le 8e arrondissement à Paris, qui coordonne un peu tout cet engouement et le congrès international d'astronautique qui démarre la semaine prochaine au Mexique.
Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a montré, cette dame du SETI France?
Alors, c'était assez intéressant. Elle m'a montré comment elle travaillait sur l'analyse de signaux, à quoi on pouvait vraiment s'attendre dans le cas d'un réel signal de type SETI. Quelle forme, quelle fréquence, quelle intensité. Bref, elle m'a dévoilé le véritable profil type d'un signal SETI.
Donc, un signal SETI qui va nous intéresser, il va être très bas. Au moment où l'étoile va passer devant le radiotélescope, il va augmenter, puis ensuite, eh ben, ça va diminuer. Donc voilà, donc là, sur l'écran, on regarde si le signal il ressemble à ça. si on peut avoir une courbe qui s'appelle une gaussienne et qui ressemble à ça. Voilà. Donc ensuite, on a des informations.
On a des coordonnées.
Et voilà.
Les intensités,
voilà.
Beaucoup de chiffres. En fait.
Oui, beaucoup de chiffres. Alors là, on a le lieu qui est observé. Donc, c'est-à-dire qu'avec la déclinaison, je peux savoir où est l'étoile, où est la zone du ciel qui est observée. On a quand même pas mal d'informations. Et on a un diagramme avec la fréquence, le temps, la puissance qui défile en permanence.
Et donc, après la question de ce que serait le signal, vous avez cherché, Céline, à obtenir une autre réponse. Que se passerait-il si un pays recevait ce type de message par rapport au reste de la communauté internationale?
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup à comment recevoir un signal, mais on se pose rarement la question de savoir comment on pourrait gérer ce phénomène-là. Alors moi, j'ai été rencontrer Jean-Marc Bonnet-Bidot. Il est astrophysicien et surtout, il connaît bien le radiotélescope Rattan-Sisson. En fait, il y a travaillé il y a quelques années. Il m'a fait part de ses doutes sur nos capacités technologiques pour capter un vrai signal extraterrestre. Et surtout, il m'a démontré un peu la démarche au niveau scientifique et au niveau des protocoles intergouvernementaux. Mais en fait, il semblerait que ne soit pas si évident que ça.
Bonjour Jean-Marc Bonnet-Bidot. Hier, j'ai rencontré Elisabeth Piotella, qui m'a parlé du signal qui a été détecté l'année dernière par le radiotélescope Rattan-Sisson. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Le Rattan-Sisson, donc c'est un très grand télescope. Moi, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années. C'est effectivement un télescope qui a été construit dans la fin des années 70. Donc c'est un télescope relativement ancien, qui n'est pas un télescope totalement dédié à une recherche de type signaux extraterrestres, parce que c'est une surface relativement modeste. La dimension est grande, c'est 570 mètres, c'est pour ça que ça s'appelle Rattan-Sisson, c'est presque 600 mètres en circonférence, mais c'est juste une petite bande de réflecteurs. Ça n'est pas une surface complète remplie de réflecteurs qui ferait 600 mètres de diamètre. En l'occurrence, maintenant, il existe un nouveau grand télescope qui vient d'être inauguré, qui est en Chine. Il s'appelle FAST. Et celui-ci est une vraie parabole complète de 500 mètres de diamètre. Donc là, on a évidemment les éléments les meilleurs pour rechercher un signal de source extraterrestre, parce que on pense que ces signaux nous sont émis d'étoiles relativement lointaines.
Et ce radiotélescope qui est vraiment conçu et dédié pour des vrais programmes de recherche en astrophysique, en cosmologie aussi, si jamais il était amené à détecter un signal qu'on aurait nettoyé, filtré et qui s'avère être d'origine inconnue, comment on appréhenderait un tel phénomène, vous, par exemple, au commissariat à l'énergie atomique ?
Je pense qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de vrai protocole d'une décision qui aurait été prise internationalement. En premier lieu, avant divulgation d'une information de ce type-là, de le vérifier. Donc ça, c'est la méthode scientifique par excellence. Ça veut dire de le disséminer dans un cercle restreint, de façon à ce qu'effectivement on puisse demander à des laboratoires ou des installations différentes d'essayer de confirmer ou d'infirmer, et puis tout bêtement de se mettre à réfléchir sur les causes possibles d'un tel signal. Et uniquement après avoir fait un certain nombre de vérifications, même si elles sont rapides, même si elles sont peut-être un peu superficielles, si on veut, là, effectivement, on pourrait publier ça par des canaux officiels, pas par... La façon dont ça a été fait a été très bizarre, puisque ça a été par un message électronique d'un...
C'était un blog, en fait. C'était relié sur un blog issu d'un communiqué de presse. Et ensuite, les médias se sont penchés dessus, mais sans concertation scientifique, d'où l'objet du congrès de la semaine prochaine.
Bien sûr. Et vous avez vu également que l'Académie des sciences russe a émis immédiatement un communiqué pour prendre ses distances par rapport à toutes les interprétations. Et ensuite, après, bon, si évidemment on se place dans l'idée d'un vrai signal qui aurait été caractérisé avec une possibilité non négligeable que ça soit d'une venue de l'espace et éventuellement d'une civilisation, là on pense passer par des instances comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui effectivement a une espèce de gouvernance mondiale, de façon à ne pas laisser l'apanage de cette information à un État ou un autre. Enfin, c'est plus ou moins le modus vivendi qui a été implicitement défini, jamais écrit et signé, mais bon, c'est pas comme ça qu'on fonctionne forcément.
Voilà le reportage de Céline Lozen. Nous allons donc maintenant faire un point sur l'état de nos connaissances aujourd'hui, et puis ce qu'on peut imaginer dans ce futur contact, futur ou éventuel, on verra lequel des deux est le plus approprié, avec une forme de vie ou une intelligence extraterrestre, avec nos invités autour de cette table science-fiction, un scientifique, un journaliste, un auteur. Un scientifique, c'est François Forget, planétologue. Un auteur, c'est Laurent Genefort. Et un journaliste, c'est Roman Ikonnikov. Messieurs, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre et à cet emballement, par exemple, qu'il y a eu sur ce fameux signal capté par le radiotélescope Rattan-Sisson. Roman ?
Oui, alors ce que je voulais dire, c'est qu'il faut détailler un peu ce qu'on appelle signal, parce qu'il y a deux types de signaux. Il y a les signaux passifs, enfin moi je les appelle passifs, c'est-à-dire des signaux tout simplement captés par nos télescopes ou nos satellites sur la possibilité d'une activité biologique qui se développerait quelque part sur une lune de Saturne, sur une lune de Jupiter, ailleurs.
On attend d'ailleurs, on l'a entendu dans le Journal des Sciences, une communication lundi de la NASA sur peut-être la possibilité d'une vie sur Europe, une vie sous-marine microbiologique. François Forget, vous pensez que ce ne sera pas cette communication-là, mais...
Non, je ne pense pas. Mais ce sera très bien quand même.
Hein. Oui.
Mais ce ne sera pas une possibilité, mais ce sera des... Bon, bah, je ne vais pas faire...
Parce que vous avez des informations à nous dévoiler.
Non, pas vraiment, mais c'est...
On sait à peu près ce qui va être dit. C'est la présence d'un océan souterrain.
Oui, mais je pense que c'est plus des éminations à la surface. Bah, vous verrez.
On verra.
Mais en tout cas, ce ne sera pas l'annonce de dauphins qui ont sauté par-dessus la glace.
On n'attendait pas vraiment ça, Roman.
Et bien sûr, il y a le deuxième signal qui est celui que tout le monde comprend quand on dit signal. C'est, oui, une civilisation extraterrestre qui nous envoie des signaux à nous, ou en tout cas qui émet des signaux civilisationnels, quoi. Mmh. Donc il y a ces deux choses-là. Et en ce qui concerne donc ce qu'on appelle les post-detection protocols, qui est donc mis au point par l'Académie internationale d'astronautique, là, dont on parlait tout à l'heure, une grande partie concerne l'humanité, il faut le préciser, c'est-à-dire ces protocoles qu'on cherche, ces déclarations de principe concernant les activités qui suivent la détection d'intelligence extraterrestre, c'est comme ça que ça s'appelle, visent à surtout comment répondre à la question, comment préparer l'humanité à accepter la nouvelle, comment relayer la nouvelle, et seulement après, comment interpréter le signal, et si c'est un signal civilisationnel, comment y répondre ou faut-il y répondre.
Laurent Genefort, une réaction générale à cette petite mise en bouche sur l'éventualité d'un premier contact avec une forme de vie extraterrestre?
Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est l'horizon d'attente énorme qu'il y a derrière chaque nouvelle qui va faire une percée ou remettre en cause des fondements établis depuis 100 ou 200 ans. Et c'est toujours impressionnant de voir la rapidité avec laquelle les gens s'emparent. Via les réseaux sociaux, avec la rapidité avec laquelle la modernité va transformer ça en image populaire, en fait. C'est ça qui m'impressionne toujours. Je me rappelle de l'affaire sur les neutrinos plus rapides que la lumière. Tout de suite, il y avait eu ça y est, la relativité, c'est fini.
Oui, explose en vol. On s'est téléporté. Enfin,
et puis voilà. Et puis l'espèce d'énorme déception en fait non. Quel dommage. C'était en fait un simple problème de mesure.
La particule X au CERN cet été, où on a tendu, on s'est dit, ça y est, le modèle de la physique générale va tomber en miettes, et finalement, c'était une fluctuation statistique.
Ça a quelque chose d'effrayant dans cet accaparement d'une vision populaire de la science. Et en même temps, c'est aussi encourageant de voir que la science continue d'enchanter le monde.
François Forget, quand on scrute l'espace, qu'est-ce qu'on cherche avant tout? Quelles sont les différentes façons qu'on peut avoir de chercher une forme de vie, quelle qu'elle soit, qu'elle soit bactérienne, qu'elle soit évoluée?
Oui, alors il y a plusieurs méthodes. En fait, il y a deux grands types de méthodes. Le premier, c'est celui dont qu'on vient d'évoquer, donc de regarder avec des radiotélescopes, essayer de capter des signaux émis volontairement ou pas. C'est-à-dire, ça peut-être que pour les étoiles les plus proches, on serait capable de détecter la télévision avec un bon gros télescope, radiotélescope. Et là, il faut reconnaître, revenir juste là-dessus, que ça paraît, c'est pas un grand silence, et puis d'un coup, tac, un signal. La grande difficulté, vous l'aurez compris, c'est que ce soit l'ionosphère de la Terre, que ce soit éventuellement, et ça a été évoqué, les satellites qui sont au-dessus, et puis derrière les différents corps, ça peut être les étoiles, mais même des objets lointains en arrière-plan qui peuvent être très énergétiques, les pulsars, les quasars, qui peuvent être des sources, qui fait qu'en fait, il y a du signal, il y en a tout le temps.
La difficulté, c'est un bruit de fond diffus très fort.
Donc la grande difficulté d'un projet comme SETI, c'est de faire la différence entre un signal intelligent et pas intelligent. Alors quasiment sûr, parce que on l'a déjà vu pour plein d'autres sujets scientifiques, à la limite, on vient les évoquer, c'est qu'il y a de bonnes chances que si un jour on détecte un signal, il y aura une grande ambiguïté. dans un premier temps, on dira oh, on a trouvé un signal régulier. Ça a déjà été le cas dans le passé. Hein. Les pulsars, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Les pulsars, paf, des émissions systématiques, etc. Donc ça a été très impressionnant.
Il y a même mon anecdote favorite qui est le four à micro-ondes. Vous, dans un radiotélescope au Chili, on comprend connu, des années, on pensait que c'était un signal récurrent. Et en fait, c'était juste l'ouverture de la porte du four à micro-ondes.
Exactement. Et donc, il y a de bonnes chances qu'il y ait une grande ambiguïté. À moins que le signal soit absolument évident d'un coup, quelque chose d'extraordinaire, mais c'est peu probable. Et cette interrogation-là va aussi aller sur l'autre type d'exploration qu'on fait, c'est-à-dire lorsqu'on observe non pas des signaux intelligents, mais ce qu'on appelle des biosignatures, c'est-à-dire les signatures chimiques en utilisant essentiellement la spectroscopie, donc avec des gros télescopes, on analyse bien les différents photons qui arrivent, et par exemple on essaye, pour donner un exemple très simple, on essaye de voir s'il y a de la chlorophylle à la surface d'une planète, ou plus simplement s'il y a de l'oxygène ou de l'ozone dans l'atmosphère, sachant que sur Terre, l'oxygène et l'ozone sont d'origine biologique. Alors si on en trouve, on se posera des questions, mais à chaque fois, ce sera des indices qui viendront, un débat dans la communauté, il n'y aura jamais une grande annonce.
Ce ne sera jamais une annonce claire.
Solennelle par le président de tel ou tel pays.
Mais sur cette question de l'observation des exoplanètes et de la biosignature, aujourd'hui, on est en mesure, on a des instruments suffisamment précis, suffisamment fins, pour dire quand on voit passer une exoplanète devant son soleil, quand on en mesure les variations, puisqu'il faut rappeler qu'on ne voit pas les exoplanètes, qu'on les devine par des variations d'intensité ou de spectre lumineux devant une étoile, on peut dire « Ah, dans l'atmosphère, il y a tel type d'élément de l'oxygène, tel type d'élément carboné. » François Forget.
Alors c'est vrai que la plupart du temps, on détecte les planètes, mais on commence un peu à les voir. Alors aller voir, ce que je veux dire par là, c'est qu'on commence à récupérer des vrais photons qui sont vraiment venus d'une certaine planète. Bon, en pratique, toutes les observations que l'on fait, pour l'instant, on arrive essentiellement sur des planètes assez grosses, assez chaudes, parce qu'à ce moment-là, le signal est plus net. Mais surtout, ce qui est très très prometteur, c'est que dans un avenir pas si lointain, dans 10 ans, on va commencer déjà par le James Webb Space Telescope, qui est lancé en 2018, qui lui aura la capacité déjà de faire des observations, de caractériser des atmosphères pas trop mal.
Le successeur de Hubble.
Exactement, oui, c'est un très très gros spectaculaire télescope qui va être envoyé donc en 2018. Et puis, on faut attendre peut-être encore une 10-15 d'années pour avoir une nouvelle génération de télescopes sur la Terre, en particulier le Extremely Large Telescope qui est en développement en Europe, qui sera au Chili, et qui auront la capacité, pour les étoiles les plus proches, de faire de séparer parfois la planète de l'étoile. Et puis plus loin, on a conçu, mais on n'a pas encore les sous pour, je vais dire, des systèmes de télescopes encore plus intelligents, plus complexes, qui seront vraiment capables, là, de faire la spectroscopie, de détecter à distance la caractéristique de l'atmosphère.
Tout est verrouillé, les systèmes reçoivent le signal sur le tableau. Quelle est la fréquence ?
4.4623 GHz. Hydrogène fois pi. Je te l'ai dit.
Il est puissant, le connard. Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Pile dessus !
Fais-le-moi entendre. Ah. Écoute ça. Fais-moi mentir, Fischer.
D'accord. Ça peut être un AWACS venu de Kirkland qui brouille le signal, mais j'en doute.
Merci, Elmer.
Le point sur l'AWACS est négatif.
Pourquoi pas White Sands ?
Sur cette fréquence ? Non. Le NORAD ne repère aucun avion furteur dans cette zone. Navette Endeavour en sommeil.
Ok ! Point de source confirmé. Quoi que ce soit, ça n'est pas local.
Position ?
J'ai vérifié la photométrie, je crois que c'est dans la constellation de la Lune.
Vega ?
Impossible, elle n'est qu'à 26 années-lumière.
Quelle est l'intensité du pic ?
Elle monte.
Vega, je veux dire, je l'ai étudié plusieurs fois à Recibo, il y a toujours eu des résultats négatifs.
Je l'ai. On lit une centaine de chances quises.
Putain, j'arrive à les attraper sur mon...
Extrait de Contact de le film de Robert Zemeckis en 1997 où on entend là pour le coup l'inverse de ce que vient de nous dire François Forget, c'est-à-dire un signal clair, et le film raconte comment les oreilles SETI captent ce premier contact extraterrestre. Je me retourne vers vous, Laurent Genefort. Finalement, la réalité de cette recherche minutieuse de débrouiller le fond cosmologique pour essayer d'en extraire un signal pas clair, c'est une matière très anti-fictionnelle. A priori tout de même.
Dans la science-fiction, on est passé très vite au contact physique, en fait. Il faut remonter vraiment au tout début de la science-fiction, vers 1900, en fait, il y a plus d'un siècle, pour trouver des récits d'observation pure, c'est-à-dire des récits avec des lunettes astronomiques, où on regardait les Sélénites et les Martiens à la lunette, voilà, ou au pire Jupiter, mais le côté purement observationnel, on s'est arrêté assez vite, en fait, dès les années 20, on a les premiers vraiment contacts, enfin, même avant en réalité.
Avant, oui, parce que H.G. Wells,
voilà, 1898, voilà, la guerre des mondes. Il y a que récemment un roman qui s'appelle Bland Lake de Robert Charles Wilson.
Que vous avez amené ici, très bon auteur de science-fiction, Robert Charles Wilson.
Voilà, qui ressuscite un peu ce thème de la pure observation d'une espèce extraterrestre prise à un niveau réaliste. Mais le réalisme dans la science-fiction au niveau des extraterrestres, il est arrivé dans les années 50, on va dire.
Il faut rappeler d'ailleurs que finalement, l'absence de vie sur Mars est une information assez récente. C'est-à-dire que jusque dans les années 50, on ne sait pas si Mars est ou non habité.
Romain Pelikoff. Je tiens à faire remarquer qu'il y a de la vie sur Mars le samedi soir. Le reste de la semaine, c'est mort.
Je ne suis pas sûr de vous suivre. Mais, le fait que Mars soit une planète morte, ça fait rire tout le monde. J'ai pas du tout compris votre blague. François Forget, aidez-moi.
Ce qui est vrai, c'est que. C'est vrai que si on regarde, et c'est même passionnant, même la littérature scientifique d'avant la guerre, etc., on a beaucoup de théories pas si... Alors, bien sûr, il y a toujours des chercheurs très sérieux, très rabat-joie, comme ce que je vais faire aujourd'hui, qui disent non, faut... Mais il existe quand même des gens qui, sérieusement, continuent à étudier les canaux sur Mars, les possibilités de jungle sur Vénus, et ça a toujours été un bon sujet. Et c'est vrai que l'ère spatiale, c'est vraiment dans les années 60 qu'on a vraiment démontré que non, sous les nuages de Vénus, il n'y a pas un climat tempéré, et que Mars est une planète extrêmement sèche et froide. Cela dit, Mars reste un petit peu fascinant, parce que d'une part, on sait que Mars, il y a 3 ou 4 milliards d'années, on a trouvé des traces de lacs et de rivières, donc il y avait certainement de l'eau liquide à cette époque-là, à une époque où la vie est apparue sur Terre. Donc ça motive quand même pas mal de missions spatiales pour aller mener l'enquête sur savoir si ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ça reste un objet. Mais on est loin, évidemment, de voir des vrais extraterrestres. Et quelque part, si on fait maintenant ça paraît une évidence, mais si on fait un pas en arrière, déjà, on se rend compte que dans le système solaire, la vie apparente, évidente, il n'y en a que sur Terre. Et il y a quand même de nombreux corps et objets fascinants, etc. Et pour l'instant, on ne détecte rien de facile.
Oui, Laurent Genefort ?
Il y a eu vraiment une sorte de basculement avec Hubble, l'astrophysicien, pour quand on a vraiment déterminé une taille de l'univers supérieure à plusieurs années-lumière. Quand c'est vraiment devenu énorme, là, ça a posé des vrais problèmes, en fait.
C'est-à-dire des problèmes de conception.
De conception. L'extraterrestre n'était plus à portée de main, on va dire.
Il n'était plus à côté de chez nous.
Il n'était plus à côté de chez nous et ça a été il a fallu redéfinir, en fait, un peu tout ça.
Mais pour revenir sur ce que, avant que Roman Kolnikov me fasse perdre mon fil, ce qui est intéressant sur cette notion, et puis on passera à autre chose après, mais sur cette notion de signal extrêmement faible, de besoin de recouper tout le temps les informations pour obtenir une information claire, finalement, ça va presque à l'encontre de la phrase de Sagan qui était citée tout à l'heure, qui disait des postulats extraordinaires nécessite des preuves extraordinaires. On n'aura donc jamais, Roman Ikonikov, de preuves extraordinaires.
Oui, alors ça, je ne sais pas. Il y a l'équation de Drake. Hein, on sait.
Alors expliquez-nous ce que c'est l'équation
alors,
de Drake.
Alors l'équation, vous voulez, je l'ai. Mais alors ça va prendre le reste de l'émission.
On va y passer trop longtemps.
L'équation de Drake contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8
paramètres. En fait, il y a une égalité, c'est-à-dire... N, le nombre donc de civilisations extraterrestres dans la galaxie avec laquelle on pourrait entrer en contact est égal après à une série de multiplications de paramètres.
Mais qui au final aboutissent à 1. L'équation de Drake, si on pose à peu près les paramètres de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça aboutit à 1, c'est-à-dire nous, la Terre. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'extraterrestres en dehors de nous.
Je tiens à insister sur le fait tous ces paramètres sont extrêmement incertains. Il faudrait que ce soit au minimum, ça fait 1. C'est-à-dire que on parle du nombre de civilisations si on peut appeler notre civilisation évoluée, dans la galaxie, on va dire, enfin, on peut le mettre où on veut, et en fait, en fonction des paramètres donc, sur lesquels on va revenir, toutes les valeurs sont possibles.
Oui, justement, cette équation a eu un très fort impact, elle date de 1961. Pourquoi elle a eu un très fort impact? Parce que tout à coup, une équation, c'est quelque chose qui a un impact. Ça a l'air réel. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le nombre de civilisations extraterrestres dans la galaxie avec laquelle on pourrait communiquer, le nombre N, est égal à une série de paramètres qu'on ignore complètement et qui finalement, enfin, pas tous, mais par exemple, durée de vie moyenne d'une civilisation, ça fait partie des extraterrestres. Fraction des planètes où la vie intelligente est capable ou désireuse de communiquer. Bon, il y a,
on voit que les paramètres sont des paramètres un peu lâches quand même.
Oui, on passe d'une ignorance à exprimer, plusieurs ignorances.
François Forget.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'après des milliers d'années d'interrogations, sommes-nous seuls dans l'univers? Y a-t-il d'autres terres, etc. Je trouve quand même qu'une nouvelle importante, c'est qu'on est actuellement en train de vivre une révolution et d'autres révolutions sont à venir. Et on peut l'exprimer en termes d'équation de Drake, c'est que les différents paramètres de l'équation de Drake, ben on commence un petit peu à déterminer les premiers. Il y a encore pas si longtemps que ça, alors il y a plus de 20 ans, on n'était pas sûr du tout que la formation de planètes autour d'autres étoiles n'était pas un événement exceptionnel. Maintenant, on a découvert, à partir de 1995, des planètes extrasolaires. Plus récemment, révolution actuelle, on a démontré, et ça c'est juste depuis quelques années, que autour de la plupart des étoiles, il y a des planètes rocheuses du type comme la Terre, et une grande fraction des étoiles sont entourées de planètes rocheuses à une distance telle de leur étoile qu'elles sont à peu près tempérées. Et ça, c'est certain, c'est démontré maintenant. Et ça,
on appelle la zone habitable, la zone Goldilocks.
La vraie révolution, c'est le fait qu'elles sont là. Alors, on n'arrive pas très bien à les détecter, mais c'est statistiquement, on en est maintenant convaincu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que un deuxième terme qui est derrière, qu'on exprime dans l'équation, on va dire, est-ce que ces planètes sont propices à la vie? En d'autres termes, pour nous, qui sommes tels qu'on peut imaginer une chimie capable de faire des molécules compliquées, etc., on est peut-être un peu chauvin, un peu terrocentré. Notre hypothèse que l'on fait, c'est qu'il faut de l'eau liquide.
L'oxygène et du carbone.
Non, pas vraiment l'oxygène et du carbone. L'oxygène, à la limite, l'oxygène, l'atome, bien sûr. Oui. Mais l'oxygène pour respirer, pas du tout. Ça, c'est un truc récent sur Terre.
Des molécules d'oxygène, des molécules
alors,
de carbone.
Il faut même, on pense, de l'eau liquide. Et d'ailleurs, sur Terre, partout où il y a de l'eau liquide, il y a de la vie. Et dès qu'il n'y en a pas, la vie ne fonctionne plus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on se pose vraiment des questions actuellement de savoir si ça paraît peut-être une évidence que si une planète est à la bonne distance, il y aura des océans d'eau liquide et elle sera propice à la vie. Mais en fait, là, on se pose vraiment la question de savoir quand même si la Terre, qui non seulement est couverte d'eau liquide actuellement, mais est restée couverte d'océans depuis plus de 4 milliards d'années, est-ce que ça, c'est pas exceptionnel? On a de bonnes raisons de se poser la question parce que le climat a pu être stabilisé à ce point, il a fallu des rétroactions assez compliquées qui semblent peut-être uniques. Néanmoins, la très bonne nouvelle, c'est que dans les années à venir, on l'a mentionné à l'instant, on va pouvoir non seulement commencer à chercher des biosignatures, bon ça c'est un objectif peut-être à long terme, mais avant cela, commencer à explorer les différentes atmosphères possibles, les différents climats, environnements possibles autour des autres planètes. Et une fois qu'on aura fait ça, et ça c'est vraiment dans les années à venir, on va pouvoir commencer à répondre à ce deuxième terme, c'est-à-dire est-ce que, ok, il y a des planètes ailleurs, mais est-ce qu'il y en a beaucoup sur lesquelles il y a des océans et depuis longtemps? Ça c'est un énorme point d'interrogation. Est-ce que la Terre, de ce point de vue-là, est exceptionnelle ou pas? Et on va pouvoir y répondre bientôt. Donc on avance dans l'équation de Drake. On aura déjà fait deux termes.
Les premiers signes ont fait leur apparition dans les années 70 avec le regain d'intérêt pour la vie extraterrestre. Ils cessèrent au début des années 80 et furent considérés comme des canulars. Ce à quoi on assiste aujourd'hui est tout à fait différent. Le nombre de signes et la rapidité avec laquelle ils sont apparus impliquent l'intervention de plusieurs centaines de personnes dans de nombreux pays. Il n'y a que très peu d'explications possibles. Soit il s'agit du canular le plus élaboré qui ait jamais été imaginé, soit c'est bel et bien une réalité.
Des extraterrestres. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ?
Eh bien, c'est l'histoire que nous nous racontons à 16h43 dans la méthode scientifique avec François Forget, planétologue, Laurent Genefort, auteur de science-fiction, et Romani Konnikov, journaliste chez Science et Vie. Et je voudrais vous poser une question, Mathieu, parce qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, est-ce que l'univers proche ou lointain est peuplé, et s'il n'y avait personne. C'est le paradoxe de Fermi, qui dit nous sommes là depuis tellement longtemps, il y a tellement de planètes, il y a tellement de galaxies, il y a tellement de possibilités de vie autour de nous que on devrait avoir déjà rencontré quelque chose. L'espace vide, Romani Konnikov, c'est envisageable, c'est possible?
Oui, alors encore une fois, il faut analyser un petit peu ce qu'on veut dire par là. C'est-à-dire, il n'y a personne pour être envisagé en termes scientifiques dans l'idée des distances. Hein, il y a notre galaxie, on peut éventuellement explorer au télescope ce qu'on voit dans notre galaxie, mais il y a des milliards de galaxies et on pourra pas communiquer avec elles. Donc cette hypothèse d'il n'y a personne doit être interprétée dans le sens où il y a peut-être de la vie, mais on ne le saura jamais.
Il n'y a personne proche de nous, en même temps que nous.
Oui,
donc
avec
ça réduit
qui
déjà
on puisse
le...
communiquer.
Laurent Genefort, espace vide, pour un auteur de SF, c'est pas très très encourageant.
Non. C'est clair que c'est un peu embêtant pour nous. Mmh. Ça a été traité par Norman Spinrad dans un roman. Mais sinon, globalement, on préfère les extraterrestres, hein, clairement.
Mmh. François Forget, donc ce paradoxe de Fermi, qu'est-ce qui, enfin, il y a plusieurs théories tout de même qui tentent d'expliquer le fait qu'il n'y ait pour le moment pas de traces d'une civilisation au moins aussi évoluée que nous, voire plus évoluée.
Voilà, ce paradoxe de Fermi va se renforcer dans les années à venir. On commence juste à l'échelle même des civilisations, et encore plus à l'échelle de la géologie des planètes et de l'univers. On commence tout juste à regarder autour de nous s'il y a quelque chose. Alors c'est sûr que le fait qu'on ne détecte rien, et le paradoxe de Fermi est aussi lié à l'idée que personne ne nous rend visite. Bon, c'est pas longtemps qu'on se pose vraiment la question. Alors derrière, je suis pas un expert, mais classiquement, il y a trois grandes sortes d'explications. La première, c'est qu'il y a vraiment personne, ou quasiment personne. On va dire ça plutôt précisément. C'est-à-dire que, si on revient à l'équation de Drake, c'est-à-dire que simplement les termes, d'avoir un océan stable pendant très longtemps, c'est exceptionnel. Puis derrière, le démarrage de la vie, en fait, on ne sait rien, on ne comprend rien du passage du non-vivant au vivant. Donc, comme on comprend rien, si ça tombe, c'est extrêmement rare, etc. Donc, si ces termes sont extrêmement rares, on arrive à quelques civilisations dans la galaxie, pour peu qu'elles soient de l'autre côté, il n'y a aucune chance qu'on entende parler. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, pouvoir se déplacer pour, par exemple, nous rendre visite, des voyages interstellaires pour des raisons peu évidentes, c'est-à-dire c'est vraiment très très loin, l'étoile la plus proche avec la vitesse actuelle, les fusées actuelles, il faut 100 000 ans pour y aller. Donc c'est quand même pas facile. Alors c'est un sujet abondant dans la science-fiction, comment faire pour faire ça? Alors a priori pour l'instant on n'a pas d'idée pour dépasser la vitesse de la lumière, mais même en allant à une fraction de la vitesse de la lumière, on pourrait imaginer aller quand même coloniser peu à peu des étoiles, et puis il y a des beaux calculs statistiques qui montrent que normalement ils devraient nous avoir rendu visite. Bon, ok, ça c'est troisième explication qui est la plus rigolote pour les science-fiction, c'est que en fait les extraterrestres sont là, mais on est dans un zoo, ils s'occupent pas de nous pour l'instant, ils nous observent de loin.
C'est la théorie de la non-intervention aussi, mais qu'une civilisation plus évoluée, genre Genefort.
La zone de quarantaine, enfin il y a des tas de supposés. Alors là, on est dans une science-fiction plutôt populaire, ce qu'on appelle la sci-fi, avec les extraterrestres sont parmi nous, ils nous observent, ils nous ont déjà contrôlés.
Ça c'est la version noire, parce que
la version
de la non-intervention, c'est de dire si une civilisation arrive à un niveau d'évolution très avancé, ils se sont fixés des règles éthiques disant on ne perturbe pas la vie des civilisations inférieures comme nous.
Voilà, c'est ça. Alors quand on traite du contact extraterrestre et des extraterrestres en général, on est toujours tiraillé entre le côté l'anthropomorphisme et l'anthropocentrisme, et puis l'altérité.
La monstruosité,
et puis l'altérité, ce qui est encore autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans nos paramètres du tout. Et dès les années 50, on a des formes de vie extraterrestres qui sont des nuages interstellaires intelligents, des formes de vie à la surface, des formes de vie neutroniques à la surface de naines blanches, etc., etc., donc des trucs très exotiques. Mais globalement, on reste quand même dans des formes de vie organiques et carbonées, parce que c'est le plus plausible.
Dans Point Chaud, Laurent Genefort, vous postulez que ce n'est pas un contact, mais des dizaines et des dizaines de contacts de gens qui viennent en fait visiter la Terre en utilisant des bouches un peu comme des portes aller-retour.
Oui, voilà, c'est des sortes de
qui viennent comme au Club Med, en quelque sorte, qui viennent nous voir un peu en comme ça pour pour juste on est une étape sur leur passage.
Bah ça dépend. En fait, c'était j'ai écrit ce bouquin un peu par réaction à une tendance lourde dans le cinéma américain et dans la littérature aussi, qui était ce revival des invasions extraterrestres. On a connu ça, il y a eu un grand boom dans les années 20 dans les pulps américains. Il y a eu un deuxième boom dans les années 50 avec la guerre froide où les envahisseurs venaient de Mars, souvent étaient souvent des allégories du communisme. Et puis dans l'Amérique post 11 septembre, avec des extraterrestres qui étaient qui représentaient ce coup-ci, c'était plus l'affrontement de blocs idéologiques comme dans les années 50, mais là c'était plutôt une sorte de contact de la mondialisation malheureuse, on va dire. Donc ils venaient pour des ressources, pour des choses comme ça. Et ce roman, c'est un peu une réaction à ça, où mes extraterrestres à moi, ils venaient plus pour nous envahir, mais ils venaient pour des tas d'autres raisons. Donc qui allaient de l'exploration simple au tourisme, à des réfugiés écologiques, fuyant leur planète, etc., etc. En fait, des tas de raisons de migrer, en fait. Voilà.
Donc c'est quand il y a du monde. Parmi les autres hypothèses qu'on peut évoquer pour lesquelles il n'y aurait personne, il y a l'hypothèse des flashs de rayons gamma. Vous connaissez cette hypothèse, Roman Ikonnikov?
Non, mais je connais les flashs de rayons gamma. J'en ai pas reçu personnellement.
Non, mais sinon vous ne seriez pas là.
Non.
Ou alors vous auriez vraiment très bonne mine.
Oui, c'est des radiations. Finalement, les rayons gamma sont dans le spectre des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière, l'infrarouge, tout ça, les plus énergétiques. Notre Soleil protège, avec son champ magnétique, protège le système solaire un petit peu de ces rayons-là. Cela dit... Un petit peu.
François Forget fait le mou dubitatif.
Non, c'est le scientifique. Non, lui, il a le droit.
J'ai fait le ravage. Ça marche pour pas mal de. Les rayons gamma, c'est des photons, donc ils vont tout droit.
Oui.
L'hypothèse des flashs de rayons gamma étant qu'il y a de façon périodique et régulière des flashs de rayons gamma qui
exterminerait tout le monde.
Qui grillent tout le monde.
Tous les 200 millions d'années.
Et d'ailleurs, la Terre, les premières extinctions, la deuxième, je crois, aurait pu être le fait d'un flash de rayons gamma à proximité. Et on est en sursis.
Oui, ça abîmerait civilisation.
François Forget.
Non, je voudrais juste dire finalement, moi, là, c'est passionnant. Enfin, moi, j'aime la science-fiction. La science, puis j'aime bien la science-fiction, et c'est toujours passionnant de débattre. Je pense n'importe qui, une fois qu'il redevient un peu un enfant, il est fasciné par cette histoire de paradoxe de Fermi, etc. Et en fait, l'air de rien, le paradoxe de Fermi actuel, c'est-à-dire le fait que on n'a pas vraiment de vue vraiment d'extraterrestres, sérieusement, et puis on n'a pas non plus, avec déjà plusieurs dizaines d'années d'observation d'étoiles avec un radiotélescope, on n'a pas décelé de signal facile. L'air de rien, il y a déjà une première découverte scientifique majeure qui impacte la science-fiction, c'est que on est sûr qu'il n'y a pas de manière abondante des civilisations qui communiquent de partout et qui rayonnent de partout. Ça, c'est sûr, on c'est déjà une trouvaille, ça. Alors on n'a pas prouvé qu'il n'y en avait pas, mais on a prouvé qu'il n'y en avait pas partout, dans toutes les étoiles du voisinage ne sont pas remplies d'espèces qui regardent la télé en utilisant des ondes radio. Et puis après, on peut décliner ça à l'infini. Peut-être qu'en fait, l'utilisation des ondes radio, ça ne dure que 100 ans. On a commencé il y a 50 ans, et dans 50 ans, on aura trouvé autre chose de mieux et on passera à autre chose. Enfin bref, c'est une littérature abondante et rigolote, mais ce fait-là, c'est un fait scientifique. Il n'y a pas partout, dans tous les tours des autres étoiles, dans le voisinage, dans la galaxie, des gens qui communiquent de partout et qui veulent communiquer avec nous.
Laurent Genefort.
En même temps, moi, ce que j'aime bien que ce soit l'équation de Drake ou l'échelle de Kardashev.
Alors, on en a pas parlé, je voulais en parler justement.
Voilà, ou le paradoxe de Fermi.
L'échelle de Kardashev, il faut dire ce que c'est en un mot.
C'est une mesure, c'est une façon de mesurer l'état d'avancement d'une civilisation extraterrestre ou terrestre, d'ailleurs.
D'une civilisation tout court.
Civilisation tout court.
Sur trois niveaux. La première, c'est de prendre l'énergie de sa planète. Voilà. La deuxième, prendre l'énergie de son Soleil, la troisième, prendre l'énergie de sa galaxie.
C'est fondé sur la consommation énergétique, c'est pour ça que ça a été un petit peu abandonné par la suite, parce que c'était pas forcément une échelle... ça reflétait aussi nos préoccupations, qui étaient, on était encore dans... ça reflète les années 60, qui est une ère justement d'expansion énergétique. Maintenant, on est un peu moins dans cette optique-là. Mais ce que j'aime bien dans ces trois trucs, c'est que c'est des spéculations scientifiques, mais très spéculatives, justement. Et c'est pour ça que ça rejoint beaucoup la SF, d'une part parce qu'une partie des astrophysiciens sont auteurs de SF. Il y a plein d'astrophysiciens qui sont auteurs de Brin.
Et encore plus qui sont lecteurs.
Et encore plus qui sont lecteurs, oui, oui. Donc tout ça se mélange et c'est intéressant, je trouve, de voir comment la science, pour moi, elle est devenue très spéculative, donc d'autant plus intéressante.
Et il y a une constante, en tout cas, quasi scientifique dans la projection avec les extraterrestres, c'est que souvent, ils sont vraiment très, très, très méchants.
Regardez-vous-même. Des êtres d'un autre monde. Sorte de machine volante.
Mais non, elle est maintenue au-dessus du sol probablement par un flux magnétique semblable à d'invisibles jambes.
C'est étonnant.
Ils doivent, en opposant des champs équilibrés, pouvoir ainsi élever la machine.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et pour conclure ce débat, je voudrais aussi qu'on dise un mot de cette initiative, puisque là, pour le moment, on a parlé de SETI au début de l'émission. Il y a un super SETI qui est en cours, Roman Nikonikov, qui a été présenté l'année dernière par Stephen Hawking, appuyé financièrement par un milliardaire russe, qui s'appelle la Breakthrough Initiative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que on va avoir effectivement plus de moyens et plus de chances d'entendre quelque chose dans ce bruit diffus que nous renvoie l'espace autour de nous?
Alors, Breakthrough Initiative, c'est effectivement une initiative privée, hein, appuyée par Stephen Hawking, qui a un financement d'un million de dollars, qui a été créé en 2015, dont le but, alors il y a trois buts, j'ai relevé, il y a le Breakthrough Listen, écoute, donc observation pendant 10 ans de 1 million d'étoiles proches, mais pendant 10 ans, on les observe. Pendant 10 ans, histoire d'être sûr qu'ils allument la télé s'il y a une civilisation extraterrestre.
Ils font la fête samedi soir.
Oui, qu'ils font la fête le
comme
samedi soir et le reste de la semaine. Il y a la deuxième partie, c'est le breakthrough message. Donc message, qui est transmettre un message depuis la Terre. Or, il faut savoir que pour transmettre un message depuis la Terre dans vers des étoiles très éloignées, pour que ça soit recevable de manière assez simple, il faut beaucoup d'énergie, donc il faut de l'argent.
On en a envoyé déjà quelques-uns. Hein. Bon, il y a celui de Voyager, mais il y a eu une expérience qui avait été faite en partenariat avec Arte. Il y a 5-6 ans, je crois, où il y a un message qui était parti, qui avait été envoyé depuis un radiotélescope de Toulouse dans l'espace vers une étoile. En disant si quelqu'un l'attrape au passage, mais là encore les statistiques.
Mais plus on met de l'énergie, plus on a des chances d'être capté par une civilisation, parce que le message il restera un peu plus vigoureux. Et puis la troisième partie, c'est les starshots. Ah. Et ça c'est intéressant, c'est envoyer des microsondes à voile solaire vers ces étoiles très éloignées, donc François Forget parlait de 100 000 ans. On est dans.
Mais alors, les starshots, c'est intéressant surtout pour Proxima du Centaure, où on vient de détecter une exoplanète tellurique.
Oui. Attendez, parce que c'est des microsondes à voile solaire de 1 gramme chacune. Là on est vraiment dans la science-fiction, mais c'est très très beau.
Cette idée, ça vous paraît être une idée raisonnable, ou en tout cas une idée qui peut aller au bout, cette idée de starshot, c'est-à-dire d'ensemencer effectivement avec plein de micro-robots qu'on enverrait par milliers, en se disant ils peuvent voyager plus vite parce qu'ils sont portés par les vents solaires, donc ils n'ont pas besoin de propulsion avec du carburant, et puis sur les milliers qu'on envoie, il y en aura bien 1, 2, 10, 50 qui vont arriver à destination, François Forget.
Ouais, j'étais intrigué par cette affaire-là. Au début, comme tout bon chercheur, j'étais très sceptique, j'ai creusé un peu. Et en fait, c'est assez intéressant. Alors, ça marche pas tout à fait comme par le vent solaire. Le principe est assez joli. Alors, il faut concevoir de mettre en réseau un très grand nombre de lasers puissants qui vont être cohérents. Alors, la science est un peu astucieuse. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que on prend ces lasers, on va éclairer une petite voile solaire avec une micro-sonde, faut miniaturiser, de 1 gramme, 2 grammes, et on la propulse. Mais en fait, c'est plutôt comme un canon. On va tirer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, et je crois que c'est plutôt quelques minutes, en fait. Et boum, on met cette petite micro-sonde à la vitesse d'une fraction de la vitesse de la lumière, par exemple, je on va dire un tiers de vitesse de la lumière. Donc on rejoint Proxima B, la jolie planète qu'on a découvert cet été, en 12 ans. Mais surtout, dès qu'on envoie une microsonde, l'après-midi, on en envoie une autre. Mmh. Et puis le lendemain, une autre, puis vers où on veut en plus. Mmh. Donc c'est une technologie tout à fait nouvelle et qui, pour la première fois, nous donne une idée pas absurde d'envoyer quelque chose là-bas.
Un tout dernier mot pour finir, chacun d'entre vous, vous devez répondre rapidement à cette dernière question. Est-ce que vous êtes confiant, puisque c'est la fin de l'émission, dans cette phrase de Seth Shostak du programme SETI, qui est persuadé que l'on trouvera une vie dans l'espace d'ici la fin du siècle? Roman Ikonnikov, oui ou non?
Pas la fin du siècle, un jour, oui.
Laurent Genefort.
Je peux répondre par une citation de John Sladek.
Bien sûr.
Il est certain que les extraterrestres existent et qu'ils nous contacteront un jour, probablement pour nous emprunter de l'argent.
François Forget.
Moi, j'ai parlé de littérature scientifique. C'est un peu comme si vous demandiez si l'équipe de France va gagner le prochain match France-Allemagne. Eh bien, j'aimerais bien.
Mille merci à tous les trois d'avoir accepté de jouer le jeu de ce premier numéro de science-fiction dans la méthode scientifique. Merci François Forget, Roman Ikonnikov. On vous retrouve dans les colonnes de notre partenaire, le magazine Science et Vie, Laurent Genefort. Je ne vais pas citer tous vos ouvrages. Sachez que je suis un lecteur assidu. Je peux citer les deux derniers, Point chaud, pas de dernier d'ailleurs, il date de 2012. Point chaud et Alien, mode d'emploi, manuel de survie en situation de contact extraterrestre, aux très bonnes éditions du Bélial. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Léo Quentin, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Clément Daté et au droit d'auteur Julie Guéroux. Et un coup d'œil à ce que nous vous avons concocté la semaine prochaine dans la méthode scientifique. Lundi, nous parlerons des scandales pharmaceutiques et de transparence dans l'industrie du médicament. Mardi, de Rosetta, d'Osiris, des comètes et des astéroïdes. Mercredi, des avancées en voiture connectée sans chauffeur. Jeudi, nous recevrons Michel Serres et vendredi prochain, table ronde Actu. Dans un instant, le magazine de la rédaction cette semaine préparé par Bruno Cadenne. Et nous, on se retrouve comme d'habitude lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.